Alors, nous continuons aujourd'hui notre série sur le survol des 66 livres de la Bible. Aujourd'hui, nous allons étudier le livre de Jérémie. Alors, comme on le fait habituellement dans notre première leçon sur un livre, on regarde les éléments suivants. On regarde l'arrière-plan du livre, son but principal, son plan, les thèmes majeurs qu'il y a dans le livre, les personnages clés, les versets clés, les leçons pour le peuple de Dieu d'alors et d'aujourd'hui, et également la place et la présence de Jésus-Christ dans le livre. Alors, on va regarder d'abord l'arrière-plan du livre de Jérémie. Alors, une soixantaine d'années environ après la mort du prophète Ésaïe, l'Éternel suscite un jeune homme pour proclamer l'imminence du jugement qui va s'abattre sur Juda et sur Jérusalem. Ce jeune homme, Jérémie, est connu pour ses larmes, car il délivre un message de jugement, mais avec le cœur brisé. L'auteur. Le livre est le compte-rendu personnel de Jérémie, qu'il a pu dicter en partie ou en totalité à son secrétaire Baruch. Jérémie naît en 648 avant Jésus-Christ à Anatote, un village situé à environ 3 km au nord-est de Jérusalem. Sacrificateur de naissance, Jérémie est appelé à l'office de prophète alors qu'il est encore très jeune, comme Moïse avant lui. Il fait valoir son inexpérience et sa difficulté à parler. L'Éternel le rassure en lui disant qu'il a été mis à part pour cette œuvre avant même sa naissance, qu'il recevra les mots à transmettre et l'autorité pour délivrer son message et qu'il bénéficiera de la protection divine. Symbole vivant du châtiment terrible qui s'abattra sur Juda, le prophète reçoit l'ordre de ne pas se marier. Ses prophéties sont mal accueillies. Ses voisins menacent de lui ôter la vie. Ses propres frères le rejettent. Ses amis se retournent contre lui. Les sacrificateurs et les prophètes le méprisent et les rois le rejettent. Il est battu, jeté en prison, menacé plusieurs fois de mort et il échappe de justesse. Il est emprisonné à plusieurs reprises dont une fois dans une citerne boueuse. Lors de la chute de Jérusalem, les Babyloniens le libèrent. Il retrouve la liberté et décide de rester à Jérusalem. Contre les ordres explicites de Dieu, les derniers habitants de Juda fuient en Égypte, emmenant Jérémie avec eux. C'est là que meurt le prophète. Un jugement si sévère menace ce peuple qu'il aime tant que son cœur en est brisé. Si on regarde quant à la date de composition du livre de Jérémie, Jérémie fut actif durant les règnes des rois de Juda, Josias, Joacaz, Joachim, Joachin et Sédécias. Jérémie reçoit son appel de Dieu en 626 avant Jésus-Christ et écrivit jusqu'en 582 avant Jésus-Christ. Tout cela approximativement, bien sûr. Si on regarde la période historique et le cadre du livre de Jérémie, on connaît mieux la vie de Jérémie que celle de n'importe quel autre prophète de l'Ancien Testament. Il commence son ministère en l'an 627 avant Jésus-Christ, la 13e année du règne de Josias sur Juda. Josias accède au trône à l'âge de 8 ans. Ce roi manifeste les signes d'une authentique conversion dans son adolescence. À 20 ans, il entreprend une réforme religieuse de grande envergure dans tout Juda. La vocation de Jérémie à l'office prophétique et le début de la réforme religieuse amorcée par le roi Josias se produisent donc au cours de la même année. Jérémie exerce son ministère durant les 18 dernières années du règne du bon roi Josias et sous les règnes des rois impies que furent Joachas, Joachim, Joachin et Sédécias. Il est contemporain des prophètes Nahum, Sophonie, Habacuc à Jérusalem, de Daniel et Ézéchiel à Babylone. Ces deux derniers prophètes passèrent probablement leurs premières années sous le ministère de Jérémie à Jérusalem avant de connaître l'exil. Ceux qui ont téléchargé les notes du livre de Jérémie que je rends disponible à chaque leçon, vous allez avoir un tableau dans lequel vous allez pouvoir regarder les différents prophètes et les différents rois et les différents personnages et les grandes périodes de l'histoire au cours desquelles toute cette histoire s'est déroulée. C'est intéressant à observer cela et à essayer de comprendre historiquement dans quel cadre Jérémie opérait. Alors, Jérémie fut au service de Dieu pendant plus de 40 ans, de 627 à 586 avant Jésus-Christ et au-delà. Il prophétise durant la menace de 22 ans que la Syrie et l'Égypte font peser sur Juda, et pendant les 19 ans de menace et de siège par Babylone. Il est témoin de 3 vagues successives d'invasions et de captivité. Il prophétise en Égypte après la chute de Jérusalem. Il assiste donc à la fin du grand empire assyrien qui a détruit le royaume d'Israël et a dominé le Proche-Orient pendant plus de 2 siècles. Après la mort d'Assurbanipal d'Assyrie vers 626 avant Jésus-Christ, l'empire assyrien amorce son déclin. L'Égypte et Babylone occupent une certaine prééminence. Babylone s'empare de Ninive, la capitale de la Syrie, en 612 avant Jésus-Christ. 7 ans plus tard, une confrontation inévitable entre Babylone et l'Égypte voit la victoire des premiers à Carchemish en 605 avant Jésus-Christ. Jérémie exerce son ministère de prophète au cours de cette période troublée qui voit Juda tenter de préserver son indépendance. Le deuxième point qu'on voulait examiner, c'est le but principal du livre, du livre de Jérémie. Même s'il ne voulut pas être prophète, Jérémie amena un message de jugement contre le peuple de Juda. Il espérait qu'une repentance authentique de son peuple, qu'il aime profondément, pourrait remettre à plus tard ou même à annuler le jugement imminent qui menaçait de s'abattre sur eux. Au début de son ministère, le principal message de Jérémie était d'avertir le peuple de Juda de leur éventuelle destruction à cause de leur idolâtrie, de leur injustice et de leur arrogance suffisante. Le roi Manassé, qui avait régné sur Juda vers 697 à 643 avant Jésus-Christ, avait violé l'alliance en encourageant l'adoration de plusieurs idoles et d'autres pratiques païennes. Le petit-fils de Manassé, Josias, qui régna sur Juda aux alentours de 641 à 609 avant Jésus-Christ, débuta une série de réformes pour renverser les politiques de son grand-père Manassé. Cependant, les efforts de Josias ne firent pas un changement durable en Juda. Le jugement de Dieu semblait inévitable. Rempli de courage et de foi, Jérémie annonça le message de ruine prochaine. Cependant, son amour pour le peuple le força à supplier Juda de se repentir et de prier avec pleurs pour tenter d'obtenir le pardon de leurs péchés par Dieu. Même après la destruction de Juda et leur exil à Babylone, Jérémie continua d'aimer son peuple et de les avertir de se soumettre à leurs oppresseurs et non pas se rebeller. À la fin, Jérémie les informe de la promesse de Dieu de racheter un reste du peuple. Dieu ferait une nouvelle alliance avec son peuple. Cette nouvelle alliance serait écrite dans leur cœur, dans leurs esprits. Dieu serait leur Dieu et eux seraient son peuple. Dieu leur démontrerait une éternelle grâce, pardonnerait leur méchanceté et oublierait leurs péchés pour toujours, comme on peut le lire au chapitre 31 de Jérémie, les versets 33 et 34. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Comme je le fais à chacune des leçons qu'on fait sur un livre en particulier, j'inclus toujours un plan. Un plan du livre. Alors ici, j'ai inclus le plan en deux phases. Un qui est un plan succinct, vraiment un résumé très, 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 très court sur l'ensemble du livre, qui nous parle des divisions du livre, des principales idées qui sont véhiculées dans les différentes sections du livre. Je vous invite, lorsque vous étudiez le livre de Jérémie, à regarder ces plans-là et à essayer de comprendre dans quelle section vous êtes pour conserver une vue d'ensemble de l'ensemble du livre. Ces plans-là, vous pouvez les imprimer et les garder devant vos yeux lorsque vous lisez le livre. Ça aide énormément à comprendre lorsque on saisit l'ensemble du plan du livre et qu'est-ce que le Seigneur est en train d'enseigner au peuple à l'aide de ce livre. Donc, vous avez le plan succinct, donc qui est un plan résumé. Et tout après, vous avez le plan détaillé du livre de Jérémie. Alors, je ne vais pas les lire parce que c'est il y a beaucoup de numéros de versets et je vous laisse plutôt découvrir par vous-même l'utilité des plans de livres de la Bible lorsqu'on veut étudier avec sérieux les livres des Écritures pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur cherche à enseigner par tout cela. Alors, vous avez les deux plans. Je vous conseille de les regarder attentivement. Prenez vraiment le temps d'aller regarder les divisions. Tous les numéros sont marqués et ça va vraiment vous aider à comprendre le livre de Jérémie. Alors, on va aller au quatrième point qui est les thèmes majeurs qu'il y a dans le livre de Jérémie. Bien sûr, il y a le thème du jugement. Les péchés d'idolâtrie et de rébellion seront jugés par Dieu. Jérusalem et Juda seront détruits. Deuxième thème, celui de la restauration. Alors, le Seigneur enseigne qu'après un temps en exil, Dieu restaurera son peuple. Le troisième thème qu'il y a dans le livre de Jérémie, c'est celui de la Nouvelle Alliance. C'est très important parce que ça a un lien très, très, très évident avec le Nouveau Testament. Très important de comprendre cette Nouvelle Alliance. Lorsque Dieu restaurera son peuple, il fera avec lui une nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, la loi de Dieu sera inscrite dans leur cœur et Dieu pardonnera et oubliera les péchés de son peuple. Bien sûr, la nouvelle alliance a un lien direct avec le Messie Jésus-Christ et on voit toutes ces choses-là bien développées dans le Nouveau Testament et d'une façon particulière dans le livre des Hébreux. Cinquième élément qu'on va regarder, c'est les personnages clés qu'il y a dans le livre de Jérémie. Alors, les principaux personnages sont Jérémie, son secrétaire Baruch, les cinq rois de Juda, Josias, Joachaz, Joachim, Joachin et Sédécias. Maintenant, on va regarder quelques versets clés dans le livre de Jérémie. Quand on dit des versets clés, c'est des versets importants. Ça ne veut pas dire que c'est les seuls versets importants du livre de Jérémie. Ils sont tous importants, mais il y a certains versets qui ressortent et qui donnent des idées qui vont se développer plus tard à l'intérieur de la Bible elle-même. Alors, on peut aller dans Jérémie, chapitre 9, versets 23 et 24. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Ensuite, on pourrait lire Jérémie 29, versets 10 à 13. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors ici, il y a quelque chose d'important dans ce passage-là, c'est l'idée du 70 ans à Babylone. Alors on sait que Daniel, dans le livre de Daniel, c'est Daniel, en lisant le livre, il s'est rendu compte que les 70 ans qui avaient été prophétisés étaient écoulés et il savait que Dieu avait promis de les ramener. Très important, c'est des points de repère très importants dans les Écritures. Et le Jérémie 31, qui est aussi un passage important concernant la Nouvelle Alliance. Alors, Jérémie 31, verset 3, et aussi les versets 33 et 34. Verset 3, « De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Versets 33 et 34. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël en ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. » dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Il y aura aussi Jérémie, chapitre 33, versets 15 et 16. En ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Judas sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera l'Éternel, notre justice. Alors, dans l'hébreu, ceux qui se souviennent de ce passage-là, c'est vraiment Yahweh Tsikenu, et ça parle de l'Éternel, notre justice, ça parle de Christ. Très intéressant, il y a beaucoup de choses. C'est un livre à étudier en profondeur, le livre de Jérémie. Alors, ce qu'on va faire, on va regarder maintenant les leçons pour le peuple de Dieu de l'époque, d'alors. Alors, le peuple de Juda croyait que personne et rien ne pouvait leur faire connaître la défaite. Ils croyaient que Dieu les bénirait, les protégerait, malgré leur comportement méchant. Ils désobéissaient à Dieu et adoraient les dieux des nations voisines. L'attitude de Juda offensait gravement le Seigneur. Il ne les bénit donc plus. À la place, Dieu les jugerait sévèrement par la destruction et l'exil. Cependant, Dieu eut de la compassion et de la miséricorde envers eux en leur promettant de les secourir et de les restaurer. Quant aux leçons du livre de Jérémie pour nous aujourd'hui, alors on peut, l'épître de Jacques, chapitre 2, verset 17, nous rappelle que la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. La foi en Christ et la grâce reçue à travers cette foi ne nous accordent pas la liberté de pécher ouvertement et à désobéir à Dieu. L'apôtre Paul a écrit dans Romains chapitre 6, versets 1 et 2. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? La prophétie de Jérémie est un puissant rappel que la fidélité et l'obéissance au Seigneur ne sont pas optionnelles. Huitième point qu'on voulait regarder, la place et la présence de Jésus-Christ. Alors, sur cette toile de fond de menace et de jugement, brillent d'autant plus fort certaines des prophéties messianiques les plus glorieuses de tout l'Ancien Testament. Celle, bien entendu, de l'Arche de l'Alliance. « Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays. En ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'Arche de l'Alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne se la rappellera plus. On ne s'apercevra plus de son absence et l'on n'en fera point une autre. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. En ces jours, la maison de Juda marchera avec la maison d'Israël. Elles viendront ensemble du pays de Septentrion au pays que j'ai donné la possession à vos pères. » L'arche symbolisait la présence de Dieu au milieu du peuple. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Tu feras deux chérubins d'or aux deux extrémités du propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Le vrai Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, le Très-Haut, qui n'habite pas dans les mains qui est faite de main d'homme, a décidé de devenir le Dieu d'Israël et de s'engager par une alliance qui précise des privilèges et des obligations, des bénédictions et des malédictions. Pour aider le peuple à bien comprendre et pour bien le préparer en vue de la venue de son Fils dans le monde, Dieu lui a donné des types qui sont en fait des représentations symboliques au cours de la période de l'Ancien Testament. L'arche était l'un de ces types. Quiconque le cherchait, comme le Dieu d'Israël, ne le trouvait que dans le temple, sur l'arche de l'Alliance. Jérémie 3 annonce qu'un jour, l'arche n'aura plus de raison d'être. On n'y pensera même plus. Dieu prévoit de compenser si généreusement ce qui aura été perdu, que les hommes ne voudront plus la récupérer, ni ne chercheront à la refaire de leurs mains. La parole de Jérémie se réfère évidemment à la venue du Messie. Le propitiatoire qui servait de couvercle à l'arche de l'Alliance est le symbole du trône de Dieu. Quand la parole invite les chrétiens à s'approcher avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans leurs besoins, il est évident que Christ est le véritable propitiatoire, la véritable arche de l'Alliance. Dans la prophétie de Jérémie, l'arche perd sa raison d'être quand on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. On lit dans le psaume 132, versets 13 et 14, « Oui, l'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour sa demeure, c'est mon lieu de repos à toujours, j'y habiterai, car je l'ai désiré. » Et on a aussi dans Zacharie, chapitre 8, versets 2 et 3, « Ainsi parle l'Éternel des armées, je suis ému pour Sion, d'une grande jalousie, et je suis saisi pour elle d'une grande fureur. Ainsi parle l'Éternel. Je retourne à Sion et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. » Alors, j'ai mis un article aussi à l'intérieur de l'article, ceux qui vont le télécharger, sur la signification du nom de Sion dans la Bible. Je vous laisse lire cet article-là par vous-même. Alors, bien entendu, il y a aussi le roi de justice qui nous parle dans le livre de Jérémie. Alors, la malédiction qui frappe Joachim, aussi appelé Jéconias, signifie qu'aucun descendant biologique de David ne montera sur son trône. Quand Matthieu trace la généalogie du Seigneur Jésus sur Joachim, il parle de la descendance légale par Joseph, le père adoptif de Jésus. Luc, lui, remonte la généalogie naturelle qui aboutit à David par Nathan, dans Luc, chapitre 3, verset 31. Celle qui passe par Marie dans cette liste ne figure pas Joachim. Le Messie ne pouvait pas naître sous le poids d'une malédiction. Autrement, il n'aura pu être le roi promis et le germe juste. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il règnera en roi et il prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ce temps, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Comme on l'a dit tantôt, l'Éternel, notre justice, dans l'hébreu, c'est Jéhovah Tikenu ou Yahweh Tikenu, qui est vraiment une référence à Jésus-Christ, l'Éternel, notre justice. Comme toute notre justice est comme un vêtement souillé, le Seigneur fait don de sa justice à tous ceux qui croient. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Par sa mort substitutive sur le calvaire, le Seigneur Jésus a été fait justice pour nous, comme on peut le lire dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. Il est, d'une manière des plus glorieuses, Yahweh Tsikenu, l'Éternel notre justice. Alors vraiment, il faut faire un lien entre ce nom-là et cette prophétie-là et la personne de Christ, si on veut vraiment apprécier. Autre chose dont on parle dans Jérémie, la Nouvelle Alliance. Tous les prophètes fondent leurs accusations et lancent leurs défis en tenant compte de l'alliance spéciale conclue, c'est-à-dire entre l'Éternel et son peuple. Israël était une nation liée à Dieu par une alliance. Quand l'Éternel choisit Abraham et lui fit quitter son pays, il s'engagea à être son Dieu, à le bénir et à lui donner la possession d'un pays, à faire de lui une grande nation et à lui accorder un grand privilège. En effet, toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham, comme on peut le lire dans Genèse 12, versets 1 à 3, et Genèse 17, versets 1 à 8. Cette alliance se perpétua avec Isaac et Jacob et devait constituer la principale source d'espérance de la nation israélite. Quand l'Éternel la libéra de l'oppression égyptienne, il honorait son alliance avec le peuple. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Sur le mont Sinaï, l'Éternel distingua les Israélites de tous les autres peuples en concluant avec eux une alliance qui prévoyait le don de la loi, du tabernacle et du sacerdoce. Moïse consigna dans le livre de l'Alliance tout ce que l'Éternel lui avait dit. 40 ans plus tard, juste après la mort de Moïse et l'entrée dans le pays de Canaan, le peuple et son vieux chef renouvelèrent l'Alliance avec Dieu, comme on peut le lire dans Deutéronome 28, 1, aller jusqu'à Deutéronome 30, verset 20. L'histoire subséquente d'Israël est celle de fréquentes désobéissances et souvent de mépris total pour ses obligations contractuelles d'adorer l'Éternel et d'obéir à sa loi. Même lorsque le peuple était fidèle à Dieu et avait le désir sincère de vivre selon ses commandements, la loi était un joug lourd et dur à porter. La loi n'est pas mauvaise en soi, car elle est sainte et chaque commandement est saint, juste et bon, comme il est mentionné dans Romains 7, verset 12. L'ennui est que la chair les rendait sans force, comme il est mentionné dans Romains 8, verset 3. Le péché rend la nature humaine si faible que personne n'est en mesure d'observer la loi de l'Alliance. Jérémie se révèle plus explicite que les autres prophètes pour déclarer que la désobéissance à l'Alliance entraînera sur les Israélites les malédictions prévues par cette Alliance. Comme le royaume d'Israël au nord avant lui, celui de Juda a rompu l'Alliance. Dans leur grande majorité, les habitants n'éprouvent aucun intérêt à adorer ou à servir le vrai Dieu. Ils mènent une vie corrompue. Pourtant, dans ces jours sombres d'apostasie, le prophète annonce l'aube d'un jour nouveau. L'Éternel conclura une nouvelle alliance, et cette fois-ci, Il changera le cœur de son peuple pour lui donner le désir de l'observer. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec les maisons d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité. Je ne me souviendrai plus de leur péché. » Comme on peut le lire au chapitre 31, versets 31 à 34. L'auteur de la lettre aux Hébreux s'adresse à des Juifs qui ont reçu Jésus-Christ comme Messie et Sauveur. Il leur montre que les promesses de la Nouvelle Alliance se réalisèrent admirablement dans le Fils de Dieu crucifié. Il met en relief les insuffisances de l'Ancienne Alliance et les gloires de la Nouvelle, comme on peut le lire dans Hébreux chapitre 8. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Alors, dans Hébreux, chapitre 8, versets 7 et 8, c'est vraiment une citation du chapitre 31, versets 3 et 4. Alors, la nouvelle alliance remplace complètement l'ancienne, comme on peut le lire dans Hébreux, chapitre 8, verset 13. La vie et la mort du Seigneur Jésus-Christ en occupent le centre lors de l'institution de la scène. Il déclara, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Comme on peut le lire dans Luc 22, verset 20. La nouvelle alliance est une alliance de grâce. Elle se caractérise par la grâce, d'abord parce qu'elle puise son origine dans l'amour mystérieux de Dieu pour des pécheurs qui ne méritent que sa colère et sa malédiction. Ensuite, parce qu'elle promet le salut, non sur la base d'œuvres ou de quoi que ce soit de méritoire de notre part, mais comme un don immérité. Enfin, parce que ses bienfaits sont garantis et accordés, non selon le cours naturel des choses, ou par l'exercice des forces naturelles du pécheur, mais par l'influence surnaturelle du Saint-Esprit accordée au pécheur comme un don immérité. Le Seigneur Jésus-Christ est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses, comme on le lit dans Hébreux chapitre 8, verset 6. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Le Fils de Dieu est appelé médiateur et garant d'une alliance plus excellente, comme on peut le lire dans Hébreux, chapitre 7, verset 22. Ces deux expressions signifient que le Seigneur Jésus-Christ garantit personnellement les termes de l'alliance nouvelle et meilleure, conclue sur la base de son sacrifice parfait. Il s'est engagé à répondre en tant que garant de l'Alliance de tous les péchés de tous ceux qui seront et sont effectivement rendus participants de ses bienfaits. Autrement dit, il s'est engagé à encourir la sanction méritée par leurs péchés, à les expier en s'offrant lui-même comme sacrifice propitiatoire, à racheter ces gens au prix de son sang, de leur état de misère et d'esclavage sous la loi et la malédiction. Il s'est également engagé à faire en sorte que ceux qui sont entrés dans l'Alliance reçoivent la grâce, leur permettant d'en honorer les termes, d'en remplir les conditions et ainsi d'obéir comme Dieu l'exige. Sous la nouvelle alliance, les lois de Dieu seront inscrites dans nos pensées pour que nous les connaissions, dans notre cœur pour que nous les aimions, et l'Esprit vient habiter en nous pour que nous puissions les pratiquer. Autre chose dont on parle, bien sûr, c'est la question des signes et des paraboles. En plus de la communication directe par des paroles, l'Éternel se sert de signes visibles pour enseigner Jérémie. Plusieurs des messages divins prennent la forme de paraboles dramatiques. C'est le cas de la ceinture abîmée, au chapitre 13, versets 1 à 11, du potier et de l'argile, chapitre 18, versets 1 à 10, et du vase, chapitre 19, versets 1 à 13. Parfois, la communication se fait sans présentation visuelle, mais une parole pittoresque fait appel à l'imagination, comme dans le cas de vases remplis de vin, au chapitre 13. Le but est, chaque fois, d'enseigner des leçons spirituelles importantes. Le Seigneur était passé maître dans l'art de se servir de signes et de paraboles pour communiquer un message de manière vivante et dramatique. Plusieurs des miracles qu'il accomplit n'étaient pas de simples démonstrations par lesquelles Dieu l'authentifiait comme Messie, mais il contenait également un message spirituel sous-jacent en rapport avec le miracle opéré. L'apôtre Jean explique selon quels critères il a choisi de relater certains miracles de Jésus. Dans Jean, chapitre 20, verset 31, il dit « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Dans le texte original, l'emploi du mot « signe », traduit par « miracle » au verset précédent, indique que l'auteur les a choisis en fonction de leur profonde signification spirituelle. Quelques exemples illustreront notre propos. La multiplication du pain pour les 5000 hommes est un miracle qui met en évidence le fait que Jésus est le pain du ciel, qui nourrit parfaitement l'âme affamée. Le miracle de l'eau, changée en vin, enseigne une vérité primordiale. L'eau des ablutions dans les rites de purification de l'Ancienne Alliance est inefficace et remplacée par le précieux sang de l'agneau de Dieu de la Nouvelle Alliance. Il s'agit bien du meilleur qui est réservé pour la fin. La résurrection de Lazare devient une glorieuse démonstration que Jésus est lui-même la résurrection et la vie. L'aveugle-né qui recouvre la vue lorsque Jésus le touche représente tout pécheur, né dans le péché et spirituellement aveugle jusqu'au moment où Dieu fait briller la lumière au sein des ténèbres. Le filet lancé de l'autre côté de la barque et la prise d'une quantité considérable de poissons après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ préfigure de façon vivante la fusion en un seul peuple des païens et des juifs convertis. L'Éternel Dieu s'est servi de signes et de paraboles pour communiquer ses messages de façon claire et distincte à Jérémie. Mais le Seigneur Jésus indique que les signes et les paraboles, même démontrés et exprimés publiquement, poursuivent un autre but. Ils restreignent la révélation à certaines personnes, car ils ont le pouvoir à la fois de révéler et de cacher. Lorsqu'on demanda au Seigneur Jésus pourquoi il parlait en parabole, il répondit « C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Alors, une application pour terminer notre étude. Étudions soigneusement le livre de Jérémie. Il est rempli d'instructions pour nous. L'incroyable amour de Jésus pour son peuple, le fait que le Seigneur amène parfois de sévères jugements sur la désobéissance, l'immoralité, l'idolâtrie et la rébellion, sur la condition naturelle du cœur humain qui est corrompu et tortueux, sur un appel à la repentance sincère et active, et Jérémie aussi comme modèle pour nous montrer qu'il est possible de demeurer fidèle même dans les circonstances les plus difficiles. Que le Seigneur Jésus-Christ soit éternellement loué et adoré. Amen.